Vous écoutez News FM.
News FM.
Bon après-midi. Il est 13h.
News FM, la radio du bassin grenoblois.
La voix de l'emploi, c'est sur News FM. La voix de l'emploi, ce sont des émissions où l'on parle de l'emploi sous toutes ses formes. Insertion professionnelle, accès à l'emploi, stage et formation, accompagnement vers l'emploi, économie locale. Les acteurs de l'emploi vous donnent rendez-vous tous les mois sur News FM dans La Voix de l'Emploi. Avec le soutien de Grenoble-Alpes Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans La Voix de l'Emploi, votre émission en direct sur l'emploi sous toutes ses formes. Le monde de l'entreprise ne reste pas attentiste ou inactif face à la question de l'accès à l'emploi. Et oui, il n'y a pas que le monde associatif ou institutionnel qui se mobilise pour épauler les demandeurs d'emploi. Beaucoup de grandes entreprises nationales ou locales participent à des actions en faveur des publics éloignés de l'emploi ou confrontés aux rudesses du marché de l'emploi. L'AE2I, l'Association des entreprises inclusives de l'Isère, vient d'être créée il y a quelques mois et entend œuvrer à une société plus responsable. Nos invités pour en parler aujourd'hui, je reçois Bruno Renard. Tout d'abord, bonjour Bruno.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation, vous en tant que co-président de l'association et puis les représentants d'entreprises, membres de cette association qui sont avec nous. Donc, comme je viens de le dire, vous partagez la présidence de cette association et puis par ailleurs, d'un point de vue professionnel, vous travaillez au sein du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
Tout à fait.
Voilà, à vos côtés, Manuel Linas. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Et bienvenue. Donc vous êtes directeur d'Une rivière, un territoire, Isère, Drôme, Savoie. Ça dépend de EDF,
EDF Hydraulique.
Alpes.
Ouais,
c'est
tout
ça.
À fait.
Voilà.
Une idée qui exploite les barrages dans la région.
Et nous avons pour cette première partie d'émission également au micro François Couturier. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes dirigeant de la société Eli Sécurité.
C'est bien ça, merci pour
voilà.
Votre invitation.
C'est avec plaisir. Et puis après la pause musicale, nous aurons Stéphane Pagès pour la société AFB et David Colella. C'est David, hein, c'est pas David. C'est ça, c'est David, directeur de l'agence Honnête. Et peut-être Céline Randy, si elle nous rejoint d'ici là, qui représentera la société Groupement d'employeurs engagés pour l'inclusion des personnes handicapées. Voilà, allez, on commence tout de suite avec vous, Bruno, pour en savoir un petit peu plus sur cette toute récente association, l'AE2I. Qu'est-ce qui a motivé de créer cette structure associative ?
Alors déjà, avant tout, je suis salarié donc du CEA Grenoble et j'ai la chance, donc c'est une petite ville hein, de 5000 habitants, des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent sur la recherche technologique et la recherche fondamentale. Et en fait, j'ai été patron des services généraux pendant 12 ans et donc j'ai eu à charge la restauration, les espaces verts, les déchets, tout. Et donc on a fait beaucoup sur l'environnement et on s'est aperçu qu'en fait, même si on était un poids lourd sur la presqu'île, il fallait qu'on soit plusieurs pour traiter des sujets communs, par exemple comme le covoiturage sur la mobilité. Et donc, j'ai commencé à fédérer des entreprises ou des acteurs autour de sujets sociétaux comme la restauration collective, la mobilité. Quand on s'est préoccupé très fortement du volet social, là, on s'aperçoit que même avant Covid, il y avait une marche assez haute à grimper en termes de changement de comportement, casser les préjugés d'inclusion. Et donc, on s'est lancé dans la démarche au départ qui était les 10 000 entreprises inclusives, qui est une démarche gouvernementale du ministère du Travail pour aller fédérer les entreprises sur les territoires sur ces sujets-là, en appui avec le service public de l'emploi. Au bout de 3 années où on a bien travaillé, on a commencé à fédérer tout le monde, on s'est aperçu qu'en fait, il fallait une personnalité juridique pour pouvoir signer des conventions, notamment avec le rectorat, avec des associations. Il y a énormément d'associations qui travaillent sur ces sujets. L'école La Deuxième Chance, les missions locales, tout ce qui est tutorat, mentorat. Et donc, on a décidé avec Sophie Sidos, donc, qui était à ce titre présidente de la Fondation Vika, de créer une association de loi de 901, donc pour avoir une personnalité juridique et morale, et surtout un compte bancaire pour recevoir des subventions. Et là, donc, toutes les sociétés qui étaient déjà engagées avec nous depuis 3 ans ont tous répondu à l'appel, voire plus, en disant « c'est un sujet vraiment qui nous intéresse, parce que, vous avez dit tout à l'heure, c'est responsable et solidaire ». C'est-à-dire le solidaire est très très important par rapport à ça. Et on fait une connectique, quand il y a du silo entre l'environnement et le social, en fait on fait une connexion qui par exemple pour la mobilité s'appelle la mobilité inclusive. Et aujourd'hui, quand on parle beaucoup aujourd'hui en France des ZFE, des zones à faible émission, c'est un sujet majeur pour nous les entreprises de trouver des moyens de déplacement aux personnes isolées de l'emploi. Des fois on a un emploi mais elles habitent un peu loin, en zone rurale ou en dehors, et donc elles n'ont pas accès au transport en commun. Il faut trouver des solutions. Donc on a créé cette association en juillet 2019 avec une cotisation symbolique à 100 euros. C'est juste pour dire qu'on adhère à une association parce qu'on sait que tous les événements qu'on va créer autour de la sensibilisation, on trouvera les budgets à l'instant T pour les monter. Derrière ça, on a une page LinkedIn qui est en accès gratuit et libre pour tout le monde parce que ce qu'on veut, c'est mailler le territoire. Donc on est sur l'Isère. Donc on veut que les TPE, les PME, les ETI, alors vous avez parlé des grands groupes, en fait les groupes qui sont ici, les grands, les gros aident les petits. Vous voyez, nous on a la chance d'avoir des directeurs des ressources humaines, d'avoir des postes comme ça dans les TPE et les PME, ils n'ont pas cette chance-là. Donc ils ne sont pas au courant de toutes les aides de l'État, par exemple pour l'alternance, tout ce qui a été fait pendant Covid. Donc notre travail c'est de vulgariser l'information, de partager, de mutualiser les bonnes pratiques autour de ce sujet de l'inclusion qu'on a ramené. Alors on va ouvrir notre site internet très prochainement qui se voudra un site très utile pour mettre en relation le monde économique avec justement ce monde qui traite de l'emploi et des personnes défavorisées avec une notion de partenaire. Et typiquement quelqu'un va dire je veux faire un pot de départ en retraite, eh ben je vais plutôt aller choisir une entreprise adaptée ou un ESAT ou quelqu'un qui fait du bio et local et on va les aider à faire ses choix. Pour cette première intervention, je m'arrêterai juste aux thématiques qu'on a sur notre volet social. On les a regroupées en grosses thématiques. On a par exemple mains de justice. Derrière les mains de justice, donc, c'est tout ce qui se passe dans les centres pénitentiaires. On va visiter le centre de Saint-Quentin-Fallavier le 31 mars avec une délégation d'entreprises pour regarder comment, par exemple, mettre en place dans les prisons des chantiers d'insertion, donner du travail aux détenus et surtout prévoir leur reconversion pour faire de l'immersion professionnelle et qu'ils puissent choisir un métier. On a le handicap visible et invisible, parce que le handicap invisible prend une partie très importante dans la société aujourd'hui. Ça fait 3 années qu'on parle beaucoup d'autistes, mais aujourd'hui on découvre les dyslexiques, les dysphasiques et tout ça, et c'est des gens c'est 10% de la population, donc il faut qu'on trouve des moyens de les intégrer dans nos entreprises d'une manière durable. On a tous les sujets des quartiers politiques de la ville, de l'alternance. On a une douzaine de sujets comme ça, le recrutement, l'aide à l'emploi, l'accompagnement, le tutorat, le mentorat. Et ce sont tous des sujets qui intéressent les entreprises, voire des entreprises sont intéressées pour d'autres sujets, les réfugiés par exemple, où c'est Schneider Electric qui œuvre beaucoup. Manuel Lénas qui prendra la parole, qui parcourt le territoire, nous représente un peu le côté industriel et aller pour trouver des emplois. Donc voilà, tous ces sujets sont là. On fait de l'intelligence collective, on se réunit, on regarde et on fabrique des événements de sensibilisation. Dernièrement, il y a eu Horizon 9 donc, qui a été co-organisé par Mare Nostrum et le FCG, donc, qui sont adhérents de notre association. Et bien sûr, on arrive et on participe à ces événements qui sont souvent des événements un peu atypiques, qui sortent de l'ordinaire pour aller rechercher. Parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient en problématique d'emploi, mais on est, après Covid, aujourd'hui, dans une situation économique, Manuel pourra en parler tout à l'heure, quand même, où on est quasiment au plein emploi. Et aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, nous, les entreprises, à aller recruter, à trouver des candidats. Et si je peux faire un schéma à la radio, je ne sais pas comment ça passe, mais avant Covid, vous aviez donc les sociétés qui voulaient recruter. Vous aviez l'inclusion qui était totalement de l'autre côté, donc le handicap, les exilés, les réfugiés, les jeunes. Et en fait, on allait souvent chercher des emplois dans la masse, on va dire, classique des candidats à l'emploi. Et bien, ceux-là, on ne les trouve plus aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est une opportunité, tout le travail qu'on a mené depuis 3 ans, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, on a parlé beaucoup des réfugiés de l'Ukraine. Mmh. Et ben, ils arrivent dans l'Isère, ils ont des profils très intéressants. Et donc, si on arrive à passer le cap de la langue, eh ben, ce sont des employés très intéressants pour les entreprises dont les métiers sont en tension. Mais bien au-delà, bien sûr, tout ce qui est personnes en situation de handicap ou les jeunes des QPV. Et puis, je terminerai là-dessus, on fait un sourcing très en amont. On travaille beaucoup avec les collèges, avec les lycées, sur les sujets, par exemple, de l'égalité des chances, la diversité, donner envie par des témoignages inspirants à des jeunes filles, des collèges défavorisés, de prolonger dans les études. On travaille beaucoup sur les métiers dits genrés, c'est-à-dire donner envie aux jeunes filles d'aller sur des métiers qu'elles pensent qu'elles ne seront pas pour elles, pompières, faire du ciment, ingénieur, voilà. C'est notre travail au quotidien. Et j'avoue que la plupart des entreprises sont hyper intéressées par ce qu'on fait.
Donc c'est intéressant de comprendre que l'AE2I permet de fonctionner dans les deux sens. Hein. C'est à la fois des entreprises qui viennent apporter un accompagnement particulier à certains publics, mais c'est aussi une façon pour les entreprises de pouvoir répondre à leurs besoins de recrutement.
C'est gagnant-gagnant. Mmh. Alors j'aimerais juste, parce qu'il y a un exemple qui est très précis, pour lesquels on essaye de mailler le territoire, en fait, sur tous les métiers. Je m'explique, je prends un exemple. On a beaucoup de structures qu'on appelle des structures pour l'insertion par l'activité économique. La remise, enfin, donc Emmaüs. Et donc, en fait, elles ont deux buts, ces dispositifs. C'est un, certes, faire fonctionner leur vente de vêtements, récupération de meubles, mais c'est surtout permettre à des personnes isolées de l'emploi, quelqu'un qui a eu un accident de la vie, qui a été SDF, qui a eu des problèmes, ils les réinsèrent par leur boutique au savoir-être. Mais ensuite, ces gens ont besoin de choisir un métier. Et donc, l'association des entreprises inclusives va mailler le territoire avec tous les métiers, donc les gros, les petits, mais des commerçants, eh ben, y a des vendeurs des concessions automobiles, opticiens, Chris et tout ça. Comme ça, quand une personne veut aller chercher un métier, on est sûr de lui offrir en face un panel de métiers où ils vont aller passer 10 jours, 15 jours dans la société, épaulés par un. Et donc, ils vont pouvoir découvrir le métier. Et c'est une opportunité pour l'entreprise parce que si ça se trouve, elle va découvrir cette personne, peut-être prolongée par une alternance ou un stage, et ensuite, elle va le recruter.
Juste une petite précision. J'ai dit en ouverture que l'association s'était montée il y a quelques mois. Vous avez cité 2019. Donc, ça ne date pas d'octobre 2022. Alors, c'est la date que j'avais trouvée.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, la restauration collective, structurelle et filières agricoles par rapport à la puissance de feu des grosses entreprises, des collectivités sur la restauration, on a vu qu'à se réunir, c'était quand même très sympathique, on fédérait nos forces, on partageait les bonnes pratiques. Et avec mon ami Manuel, après avoir fait des grosses opérations, en 2018, on s'était dit, tiens, si on faisait un salon de la RSE, un salon de la responsabilité sociétale, mmh. où on mettait en face des entreprises les établissements adaptés, les ESAT, les entreprises d'insertion par l'activité économique, et donc faire un gros événement. Et on a décidé de travailler sur la brique emploi, parce que les autres, on l'avait déjà fait. Là, on a découvert, quoi, pour ma part, l'ancienne directe, la DETS, on a découvert Pôle emploi, on a découvert ce que fait le département sur la cohésion sociale, enfin, tout ce service public et toutes ces associations. Et est arrivée la démarche du président Macron, qui était les 10 000 entreprises inclusives. Donc, partant du ministère du Travail et du haut commissaire à l'inclusion, ils ont demandé à ce qu'il y ait des leaders qui se déclarent sur les départements pour porter cette politique publique, on va dire, qui était très avantageuse pour aider les entreprises à embaucher des alternants, et tout un tas de mesures. Donc on a travaillé de 2019 à 2022 avec donc l'impact Covid qu'on a connu. Et là, on a vu qu'on était très utile pour informer les TPE, les PME de toutes les mesures gouvernementales qui, eux, n'ont pas le temps. Ils ont les mains dans le cambouis, la tête dans le guidon, de regarder ça. On a vu qu'on a été utile. Et donc, c'est en 2022, après 3 années, on va dire, de bénévolat, sans structure, sans organisation, que par de la dynamique, une démarche très forte des entreprises, il faut se structurer. Il faut mettre en place une gouvernance et il faut qu'on commence à travailler, à pouvoir dialoguer, conventionner avec ce service public. Donc c'est pour ça que la date de juillet 2022, c'est effectivement la création effective en préfecture de l'association. Mais ça faisait déjà 3 années qu'on travaillait sur ce sujet. Et donc tout à l'heure, je vous annoncerai des événements en 2023 et en 2024, des grands événements sur notre territoire qui porteront cette démarche inclusive de toutes nos entreprises.
Ce sera en clôture de l'émission pour finir en beauté. Juste encore quelques petites précisions sur le mode de fonctionnement de l'association. Au niveau des membres, d'abord, ce n'est pas uniquement des entreprises. Vous accueillez aussi d'autres types de structures, notamment des associations, puisque News FM fait partie des membres de l'AE2I et nous sommes une radio associative.
Alors, c'est pour ça qu'on voulait se démarquer aussi, tout en conservant la démarche d'origine des entreprises s'engagent. Mais le mot entreprise était trop, en fait, contraignant. Nous, on s'adresse à des employeurs. Et typiquement, vous verrez tout à l'heure donc, le témoignage de Stéphane Pagès. Je suis allé le voir comme étant un partenaire, parce que c'est une entreprise qui nous permet de revaloriser nos ordinateurs. Enfin, il vous expliquera très bien en faisant travailler des personnes en situation de handicap. Et en dialoguant avec lui, en fait, on s'est aperçu que c'était aussi un employeur. Et du coup, il pouvait être sur les deux sujets. Rendre service aux entreprises et lui aider aussi d'autres entreprises. Donc, en fait, on s'adresse à tout ce qui est employeur, établissement, une collectivité, une université, voilà, sont des employeurs potentiels. Donc, on n'a pas envie d'être une association ingérable avec 10 000 ou 20 000 adhérents, parce qu'il y a 97 000 entreprises ou employeurs en Isère. Ce qu'on veut, et là, vous avez autour de la table aujourd'hui, on veut une task force d'entreprises qui ont les capacités de donner des ressources humaines et de temps en temps financières pour aller au-devant des TPE, des PME qui, elles, vont juste nous rejoindre en s'abonnant sur la page LinkedIn. On donnera l'adresse tout à l'heure du club. Et comme ça, ils sont tenus au courant de tous les événements. Et quand il y a un événement qui les intéresse, eh ben, ils sont les bienvenus pour participer. Et ce sont des événements qui sont, comment fonctionne l'association. On a une réunion demain soir chez Honnête à Saint-Martin-de-Vilou, qui est notre trésorier. Et donc, on fait de l'intelligence collective, les adhérents arrivent et c'est eux qui apportent les sujets qu'ils veulent traiter. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un sujet majeur, c'est comment recruter. Et on s'aperçoit qu'en fait, depuis des années, on a des RH, on a des structures de recrutement, on fait des postes, des profils de postes de candidature, on fait des webinaires. Aujourd'hui, on nous dit, il faut modifier vos postes. Ils ne correspondent plus à la jeunesse. Il faut, ou par exemple pour les dyslexiques ou les autistes, il faut que vos postes ils puissent être compris par eux avec des méthodes de recrutement différentes. Donc il faut qu'on s'adapte. Il faut maintenant arrêter les webinaires, il faut faire du News FM ou il faut faire du Twitch, vous voyez, pour s'adresser à cette population qui n'a pas du tout les mêmes codes de médias que nous. Donc on doit s'adapter. Et donc c'est des sujets qui sont portés par nos adhérents. Là, la visite de Saint-Quentin-Fallavier, c'est parce que des entreprises nous ont dit on aimerait bien aller travailler sur le sujet des mains de justice et des structures par l'activité économique. On avait prévu de faire un webinaire, on pourra en parler tout à l'heure quand Stéphane prendra la parole. C'était pour expliquer aux entreprises, en fait, le rôle d'une structure par l'insertion d'activité économique, ce que j'ai dit tout à l'heure. Certes, on peut leur acheter des prestations pour faire tourner leur business, pour qu'ils puissent employer ces personnes isolées de l'emploi. Mais il y a une des choses très importantes, c'est de les accueillir ensuite dans notre entreprise. Donc voilà, ce sont des sujets qui sont portés par l'association et par la cible de l'entreprise. Une entreprise qui va être dans l'alimentation ou dans le nettoyage ou dans les profils hydro va avoir des problématiques métiers, des parcours industrie que pourra vous raconter tout à fait chaque membre de l'association qui est là.
Eh bien justement, on va leur donner la parole maintenant, à commencer par Manuel Lénas. Donc, je le rappelle, hein, vous représentez donc une branche de EDF, plus axée sur donc la production d'électricité via des barrages de l'eau. Comment ça s'est passé un petit peu, la décision de rejoindre l'AE2I et quelles sont un petit peu les actions, les partenariats, parce que je sais que vous souhaitiez insister sur deux actions,
deux
notamment.
Exemples. Oui. Sur notre rapprochement avec l'AE2I, en fait, c'est dans la continuité de ce qu'a expliqué Bruno. Nous, on était parmi les premiers aussi à être dans la démarche des 100 000 entreprises engagées. Donc lorsque l'association s'est créée, on a rejoint l'association. Et puis l'idée, c'est vraiment de partager avec d'autres employeurs les initiatives, les démarches, les dispositifs, ce que chacun sait faire pour que ça profite finalement à tout le tissu de l'emploi. Et oui, j'avais deux exemples d'actions très concrètes. Voilà, parce qu'on dit tout le monde s'engage. Mais concrètement, vous faites quoi? Donc nous, on a, je peux prendre l'exemple de deux actions sur le Sud-Isère, donc dans les territoires de l'Oisan, de la Matésine et du Trièves. C'est là où sont nos barrages. Donc c'est là où nous, on agit en faveur de l'emploi. Il y a un premier dispositif qui est un partenariat avec la communauté de communes de l'Oisan, la communauté de communes de la Matésine, la direction de l'emploi aussi, de la préfecture et le département. Et ensemble, on cofinance l'emploi d'une facilitatrice clause sociale. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que les clauses sociales. Mmh. Donc, les clauses sociales, c'est un dispositif qui permet soit aux collectivités territoriales, soit aux entreprises, lorsqu'elles lancent un marché, d'introduire dans ce marché une clause qui va permettre de dédier des heures de travail à des gens en difficulté. Des chômeurs de longue durée, des personnes éloignées de l'emploi, des gens en difficulté socio-professionnelle. Et lorsqu'on lance un marché avec ce type de clause, ça permet à l'entreprise qui va obtenir le marché d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi, justement pour leur faciliter le retour à l'emploi ou un parcours d'insertion professionnelle. Mais simplement, il ne suffit pas de décréter et d'introduire une clause dans un marché pour que l'entreprise trouve les personnes qui vont bénéficier de ces clauses. Donc il faut aider les entreprises qui répondent au marché à identifier les personnes qui vont bénéficier de ce système d'insertion par le parcours professionnel. Et pour faciliter l'accompagnement des entreprises qui ont une obligation de réussir à trouver des personnes en difficulté, le rôle d'une facilitatrice est essentiel. C'est-à-dire que cette personne, elle va rencontrer tous les acteurs de l'emploi, elle va bien connaître le marché en question, elle va bien connaître les compétences de l'entreprise et elle va permettre d'accompagner l'entreprise titulaire du marché pour trouver des personnes qui vont bénéficier de ces heures de travail réservées spécifiquement aux gens en difficulté. Alors, je vais vous donner encore un exemple. Cette démarche-là qu'on a initiée, nous, dès 2020 sur le Sud-Isère, en fait, ça a permis à 46 entreprises ou collectivités d'insérer des clauses sociales dans leur marché. Et donc, ces 46 donneurs d'ordre, comme on appelle ça, ont passé 54 marchés avec ces clauses d'intégrer dedans. Et ce qui a permis à 150 personnes éloignées de l'emploi de retrouver un emploi et parfois même d'être embauché à l'issue du contrat par l'entreprise qui les a fait travailler pendant quelques mois sur un marché en question. Et puis aussi très concrètement, vous savez qu'on a eu un très très gros chantier, nous, dans la vallée de la Romanche, en Oisans, qui s'appelle le chantier de la nouvelle centrale de Romanche-Gavet, donc 10 ans de chantier. Et dans ces 10 ans de chantier, nous avions aussi des clauses d'insertion dans nos propres marchés de travaux. Et donc tout ce programme a permis de consacrer 72 000 heures de travail sur le volume global à des personnes en difficulté. Et donc il y a 74 personnes qui ont bénéficié de cette facilité dans le chantier d'EDF qui a duré pendant 10 ans en Oisans et qui se prolonge aujourd'hui. Si vous allez, si vous montez vers Bourg-d'Oisans, vous passerez à côté de notre chantier, vous verrez qu'on a tout un chantier de renaturation des berges après ce grand chantier. Et là aussi, on a à nouveau des clauses qui permettent de faire travailler des gens en difficulté et de leur donner finalement le pied à l'étrier pour qu'elles retrouvent un emploi durable. Mmh. Ça, c'est le premier exemple.
Voilà. Et donc, un deuxième exemple qui est lié à un plan plus large, Territoire zéro chômeur, oui. Dont on a déjà eu l'occasion de parler dans La Voix de l'emploi.
Tout à fait. Alors, Territoire zéro chômeur, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une expérimentation. En fait, c'est un dispositif national et qui repose sur un principe, c'est que nul n'est inemployable. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde peut trouver un emploi. Et lorsque vous êtes dans un territoire zéro chômeur de longue durée, ça devient un droit, c'est-à-dire le droit à exercer un emploi. Donc c'est une démarche nationale, c'est encadré par la loi, et ça permet à des territoires d'être labellisés pour porter l'expérimentation. Et le principe est tout simple, c'est-à-dire que en fait, le coût du traitement des chômeurs de longue durée, de l'emploi, est élevé pour la société. Et donc les aides qui permettent d'accompagner les personnes en chômage de longue durée, finalement, peuvent servir à financer des postes et de l'emploi local dans les territoires. Donc le Trièves a été labellisé territoire zéro chômeur de longue durée en décembre 2022, après 4 ans de travail pour obtenir cet agrément. Et le principe, c'est que ça permet de créer une entreprise spécifique qu'on appelle une entreprise à but d'emploi et qui va employer donc des chômeurs de longue durée ou des personnes qui ont rencontré des difficultés professionnelles. Et donc ces gens qui sont embauchés par l'entreprise à but d'emploi vont exercer des activités qui ne sont évidemment pas en concurrence avec les entreprises existantes ou les artisans existants, qui vont apporter de nouveaux services sur le territoire. Et le principe, c'est, voilà, c'est d'avoir des aides qui permettent d'organiser ce fonctionnement de l'entreprise à but d'emploi, plutôt que des aides qui servent à parer aux besoins immédiats des gens qui cherchent un emploi. Voilà.
Donc voilà deux exemples concrets sur l'implication de LF Hydro-Alpes dans le cadre de ces actions au sein de l'AE2I. Merci Emmanuel pour ces présentations. Alors le temps passe vite, hein, donc on va passer maintenant la parole à François Couturier. Donc François, vous dirigez une société baptisée Eli Sécurité. Quelques mots alors rapidement pour nous présenter son domaine d'activité. Et ensuite, même question que pour Emmanuel. Qu'est-ce que vous apportez à l'AE2I et qu'est-ce que l'AE2I vous apporte aussi ?
Alors, pour présenter brièvement notre activité, nous, on fait de l'activité de prestation de sécurité humaine. Donc, on met à disposition de nos clients, qui sont principalement d'autres entreprises, des agents de sécurité. Donc, on le fait une grosse partie en présentiel, c'est-à-dire que c'est au contact des publics. Ce que l'AE2I nous apporte, c'est déjà nous éclairer, nous dire qu'il est possible de combler nos difficultés de recrutement en allant vers des publics qui ne sont pas actuellement sur le marché de l'emploi ou peu connus sur le marché de l'emploi. Et c'est des gens, pour nous, c'est gagnant-gagnant, ça veut dire ça fait quelques temps qu'on fait ça. C'est des gens qui ont des parcours parfois difficiles. Ils sont en contact pour nous, quand ils travaillent pour nous, de clients, entre guillemets, ou de publics difficiles. Et c'est des gens qui ont une résilience incroyable, en fait, parce qu'ils ont fait face à des difficultés dans leur vie qui font qu'au contact de publics difficiles, ils trouvent les mots. Ils trouvent les attitudes, ils trouvent des solutions pour tendre la main, parfois plus que pour barrer la route, en fait, tout bêtement. Et ça, l'association nous éclaire sur ça, c'est-à-dire que c'est mieux qu'une aide aux entreprises, en fait. Il y a des aides qui sont faites pour insérer des publics en difficulté, mais comprendre la difficulté, en fait, c'est l'accepter, ça nous permet à nous, c'est une vraie valeur pour nous et pour les gens qu'on emploie, tout bêtement. Et c'est ce que nous apporte l'association. Nous, on peut apporter à l'association le fait de convaincre, en fait, si vous voulez, vis-à-vis de nos réseaux, et de dire, nous, on y arrive. En fait, on arrive à prendre des publics difficiles. On a un métier, on pourrait se dire, oulala, agent de sécurité, mais il faut des gens, il faut des costauds, il faut...
C'était la question que j'allais vous poser. Il y a de tout profil chez nous. Il faut quand même un profil, il faut avoir des compétences quand même.
Il faut des compétences. Mais les compétences, ça s'acquiert, en fait. C'est pas, on est, personne n'est né, ni policier, ni gendarme, ni agent de sécurité. En fait, c'est on vrai. Apprend à le devenir. Et c'est, l'attitude fait beaucoup, la résilience, l'expérience de vie. Parce que c'est un rapport humain, en fait. Principalement, la sécurité, c'est de la prévention. En fait, donc, c'est pouvoir expliquer, c'est pouvoir dédramatiser une situation. Et ça, les gens, finalement, qui ont eu des difficultés, c'est ce que je vous disais, je me répète un petit peu, pardon, mais ils ont acquis ça, en fait, naturellement. Et quand on les recrute, en fait, ils nous apportent beaucoup dans ce sens-là, en fait. Même à les observer, parfois, on va comprendre des situations différemment, parce que nous, on ne les a pas vécues. Eux les ont vécues. Quand on gère, par exemple, un festival, on peut avoir des contacts avec des publics alcoolisés, ou des publics qui sont, parfois, vous le savez, dans des états un petit peu plus difficiles. Et ces gens-là, qui parfois sont passés par des situations similaires, comprennent comment s'adresser à ces publics-là, comment les gérer, et puis finalement, dédramatiser des situations que nous, ne les ayant pas vécues, on peut avoir des a priori. Eux, ils n'en ont pas, en fait, parce qu'ils comprennent la situation. Et c'est ce qu'on veut transmettre à d'autres entreprises, d'autres secteurs. Nous, on fait que de l'humain, mais je suppose que ces valeurs-là humaines, on peut les appliquer dans plein d'activités, en fait.
Bruno, pour revenir sur l'AE2I, au jour d'aujourd'hui, c'est combien d'adhérents de structures, donc professionnelles, d'employeurs, comme vous l'avez dit ?
Alors, demain soir, on va réfléchir tous ensemble, les membres fondateurs et pionniers de la marche qu'on veut monter pour aller vers un nombre d'adhérents conséquent pour une task force. Je l'avais limité à 100, c'est-à-dire je ne voulais pas plus de 100 entreprises. Pour, quand vous faites une assemblée générale, vous avez déjà vu des copropriétés, hein, quand il y a 200 personnes dans la salle, c'est ingérable. Donc l'idée, c'était des entreprises qui avaient du temps, qui pouvaient s'engager. Donc après, si l'adhésion démarre, on sera peut-être 1000, 2000, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est d'entraîner par de la communication, donc par votre magnifique radio, par exemple, mais aussi par les réseaux sociaux, de dire, les gens les entreprises qui ont adhéré ont chacun quelque chose à apporter. Donc, je répète, échange des bonnes pratiques. Donc, on fait gagner du temps. Grosso modo, quand vous donnez 1 à l'association, vous récupérez 10 ou 20 en temps et en expertise. Et donc, je me dis qu'une centaine d'entreprises maximum. Après, on refusera personne, mais ça sera bien pour nourrir l'exécutif, pour faire fonctionner ces fameux pôles opérationnels. Donc tout à l'heure, j'ai mis des thématiques, mais ça se transforme en pôle opérationnel. Donc il y a un pôle main de justice, un pôle handicap, un pôle communication, un pôle réfugié. Et donc avec un leadership, une entreprise qui prend le lead, et ensuite 3, 4, une dizaine d'entreprises qui viennent aider et formater des événements dont on parlera tout à l'heure, qui vont permettre d'enrichir notre connaissance de ce milieu. Avant juste la pause, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier, quand on parlait de ce service public de l'emploi, donc qui est le vivier pour nous d'aller chercher donc, ces candidats, ils ont ce qu'on appelle communément des conseillers d'insertion professionnelle, parce qu'ils nous accompagnent. Une démarche d'inclusion, ce n'est pas gagné. Il faut casser les préjugés, il faut accepter les gens. Et donc, il faut souligner le travail donc, des collectivités du service public de l'emploi, qui, eux, donc, on va dire, ont les jeunes dans les missions locales. Voilà, ils repèrent les jeunes de 16 à 25 ans. Nous, on fait de l'immersion professionnelle, mais derrière, ils nous accompagnent pour nous aider à intégrer et à inclure ces personnes dans nos sociétés. Mmh. Et typiquement, Manu aurait pu parler d'une autre action qu'on fait, c'est qu'on s'est aperçu que autant l'éducation nationale ou les conseillers d'insertion professionnelle ont besoin de connaître les entreprises. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle un parcours industrie, où en fin de compte, il y a trois parties. Il y a la cible, les jeunes isolés de l'emploi, il y a les entreprises et il y a les conseillers d'insertion professionnelle. Et on fait un peu du vie-ma-vie, c'est-à-dire que le conseiller d'insertion professionnelle va découvrir l'entreprise pour mieux en parler aux jeunes. Ensuite, ils vont nous emmener une cinquantaine de jeunes, on va faire du coaching. Ouais, il y a vraiment trois acteurs fondamentaux. Les employeurs, dont le but est d'employer, ok. Et donc, avant le Covid, c'était « allez, faites plaisir ». Maintenant, on recherche beaucoup d'emplois. Les services publics de l'emploi qui trouvent ces jeunes, ces personnes déshéritées, ces personnes en situation difficile, et qui les amènent vers une employabilité dans nos entreprises. Et puis, la cible, je pourrais en parler tout à l'heure, on a, dans notre association, décrit, on va le breveter tellement c'est quelque chose qui est logique à comprendre, le sablier de la diversité. Ça pourra séduire nos téléspectateurs, les auditeurs pour la seconde partie de l'émission.
Il est parfait, hein, il peut faire de la radio, Bruno, il n'y a pas de problème. Je peux même lui laisser les rênes de l'émission. Donc voilà, et il l'a annoncé, ça va être la pause musicale puisqu'on arrive au milieu de notre émission. La Voix de l'Emploi, vous écoutez News FM en direct donc, dans cette émission mensuelle. On se retrouve juste après la pause. Aujourd'hui, on porte un coup de projecteur sur l'AE2I, l'Association des entreprises inclusives de l'ISER. À tout de suite.
En GTS, loin de l'EPS, les cours de SVT. GPS indique des héritiers, ils veulent du LSD. Ils se demandent si la BRB peut prendre leur NFT. Rien à transmettre à ceux qu'ils aiment par des MST. Quitter la terre léger, les rendre l'éternité. Plus compliqué que de conserver le permis B. Je veux inverser les rôles, faire rigoler les clowns. Copier les clones, faire picoler les genoux, voir se défouler les foules, pas se défenestrer, ou se faire pénétrer, à un verre de trop, de ne plus célébrer. Parents illettrés, talents déréglés, à qui personne fait confiance dans la classe pour être délégué. Ils se souviennent que quand tu rates, les autres demandent à préséguer. L'enfer pour les résidents, pain béni pour le président. Résultat 4h du mat, nous on croise que des taxis blancs. Alors qu'on veut juste dépenser, on ressort d'un maxi blanc. Une fois c'est pardonnable, deux fois c'est plus un accident. Et mon pote c'est que me citer, c'est exciter les Mexicains. Tu vas repartir sans slip si tu croises des sympathisants qui te feront vite comprendre que ton terme n'est pas si plein. Ne fais pas le sicilien, trop vite nous sommes pas demain, c'est pas si loin. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. Ne fais pas le sicilien, trop vite nous sommes pas demain, c'est pas si loin. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. J'ai fait que comme une teub, j'ai fait que des va-et-vient. Pour me rembourser, je fais tapiner le magicien. La ville est cruelle, petite et bien loin de chez toi. À Paname, ça te regarde ta grand-mère, même si tu t'habilles bien. Ils veulent tous devenir des icônes. Mon cerveau que de silicone, ça fait peur comme un avocat qui vient d'avoir son diplôme. Peur comme une pote à ta sœur qui fait que de l'engrainer.
Peur comme de savoir que le Satan 2 a décollé. Peur comme les condés, les virus, les unes de journaux. Peur comme se marier avec une incapable au fourneau. Dans le rap j'ai mis mes bourrelets, des nuits, des milliers de journées. Des escapades de gourmets, je rentre plus rapade de tournée. Bientôt on fera encore mieux, bébé faut les déborder. Tout le temps signalé hors jeu, mais on s'en sort victorieux. Mon grand t'es pas encore vieux, y'a plein de trucs à t'apporter. Là mets le cœur accordé à ceux qui prient encore Dieu.
Nous fais pas le sicilien. Trop vite nous sous mon pote, demain c'est pas si loin. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. Nous fais pas le sicilien. Trop vite nous sous mon pote, demain c'est pas si loin. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien. Soit on finit dans le time, soit dans le parisien.
Voix de l'emploi, c'est sur News FM. Et nous voici de retour dans la Voix de l'emploi. Nous sommes en direct. Aujourd'hui, notre sujet porte sur l'Association des entreprises inclusives de l'Isère, l'AE2I. Plusieurs membres de l'association, représentants d'entreprises locales sensibilisées à l'inclusion professionnelle, sont avec nous. On continue le tour de table pour découvrir un peu plus les actions menées par ces entreprises responsables, hein, entre guillemets. Ça fait partie du slogan de l'AE2I pour une société responsable. On va même d'ailleurs y revenir, puisque en première partie, Bruno, vous aviez précisé que effectivement c'est responsable, mais il y a aussi la notion de solidarité, d'équité derrière tout ça. Mais le choix des mots est important, donc on aura quelques précisions pour pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre en évidence cette responsabilité. Est-ce que c'est en lien direct avec ce fameux RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Voilà, on y reviendra peut-être en fin d'émission. Pour l'heure, nous accueillons Stéphane Pagès et David Colella. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors, il faut bien tirer le micro. Bonjour. Jusqu'à vous, Stéphane. Voilà. Donc, Stéphane Pagès, directeur commercial pour la société AFB. Une entreprise solidaire, quelques mots pour la présenter et ensuite ça sera à David de parler de sa structure.
Bonjour à tous, merci. Oui, AFB, une entreprise solidaire, il y a même maintenant un label officiel qui s'appelle une entreprise agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Mmh. Bon, ça c'est pour la partie administrative. AFB, une entreprise dite adaptée, donc une entreprise adaptée, c'est une entreprise dont les collaborateurs sont en grande majorité des personnes reconnues en situation de handicap. Mais ça, ce n'est pas un métier. Notre métier, c'est d'essayer de donner une deuxième vie à du matériel informatique lorsqu'il est réformé de son usage dans des entreprises ou dans des collectivités. Donc c'est une offre de service où on va collecter ces équipements, on va en effacer les données, bien sûr, dans toutes les règles de sécurité et de confidentialité. Et surtout, ces équipements, essayer de leur donner une deuxième vie après reconditionnement auprès de tout un chacun dans nos boutiques, sur notre site Internet. Donc c'est un objectif écologique, puisque c'est allonger la durée de vie d'un ordinateur, c'est bien évidemment réduire son empreinte écologique. Global, on sait que 80% de l'empreinte écologique d'un ordinateur vient de sa fabrication. Donc si on prolonge sa durée de vie, par force, on va diminuer potentiellement l'impact global des équipements. Et faire ça au travers grâce à des collaborateurs qui effectivement sont reconnus, c'est toujours la notion de handicap, reconnus des personnes en situation de handicap et qui pour autant font ce travail de qualité et tout à fait comparable avec ce que peuvent faire dans des entreprises classiques qui ont le même métier que nous.
Bruno, oui.
Alors, Stéphane Pagès est très modeste, c'est pour ça qu'on l'aime. Non, je m'adresse aux entreprises. On cherche souvent à augmenter sa capacité de responsabilité sociétale. Bon, on peut avoir son impact sur l'environnement, notre processus et puis l'intégration sociale. Mais à une époque, donc quand j'étais patron des services généraux, je cherchais justement à essayer de trouver des partenaires qui puissent aider à notre stratégie. Et là, j'ai trouvé, donc il y en a deux, mais il y avait donc AFB. C'est ce qu'on appelait dans le développement durable, il y a trois pans où dans la responsabilité, il y a l'économie, il y a le social, il y a l'environnement. Et donc nous, au CEA, on avait beaucoup d'ordinateurs, et donc je travaillais avec une ressourcerie ou des brokers qui venaient de récupérer tout ça. En découvrant son activité, c'est pour ça qu'il faut la faire découvrir, s'il y a des tas d'entreprises qui vont l'appeler au téléphone et qui vont lui dire « on veut travailler avec vous » quand on est un petit parc informatique ou un gros parc, c'est que la première des choses, au niveau environnement, il récupère 98% de notre matériel obsolète. 98%, vous voyez, on n'a plus que 2% de déchets. Et sur ces 98%, il arrive à en restaurer et en remettre sur le marché un grand nombre. Et le reste, ils ont des filières de traitement des déchets. Donc c'est, on va dire, 98% environnemental par rapport à ce qui se passait avant. Ça, c'est donc sur le côté environnement. Sur le côté social, c'est extraordinaire. Il fait travailler des personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est très très bien. Et sur le côté financier, quand il dit le tout un chacun, il est modeste. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il permet à des personnes éloignées aujourd'hui économiquement de pouvoir aller chez Darty, chez Carrefour pour acheter des ordinateurs, d'avoir des ordinateurs de bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Donc il y a une partie économie sociale qui est très importante. Donc il y a des structures comme les siennes qui réunissent les trois. Alors souvent, il y en a une, elle est soit sociale, soit elle est environnementale, soit elle est économique. Mais lui, vraiment, pour nous, c'est ce que je mets toujours en avant. Il y en a un autre, je peux le glisser, puisque c'est, on a la chance, c'est une fois, ça n'existe qu'en France, à Saint-Quentin-Fallavier, c'est la page 38, il propose des distributeurs automatiques de boissons. Et donc, ce sont des personnes en situation de handicap qui font la maintenance et qui regrettent donc en denrées et en boissons chaudes de ces distributeurs. Et donc, on a travaillé avec eux parce que c'est pareil. On a enlevé tous les gobelets plastiques et en carton. On a donné des mugs à nos salariés qui peuvent réutiliser. On fait travailler des personnes en situation de handicap. On crée de l'économie sociale et solidaire. Vous voyez, donc, quand on a sur notre territoire la chance d'avoir des entreprises comme ça, des structures d'insertion... Et pour la petite histoire, c'est un employeur, donc il est partenaire de nos entreprises, donc les entreprises cherchant à faire une action vont aller le voir pour lui revendre, lui redonner son matériel et que ça profite à cette œuvre, on va dire, sociale et solidaire. Mais deuxièmement, c'est un employeur, et donc il vient partager ses bonnes pratiques avec nous, de comment il recrute des personnes en situation de handicap, comment il les manage, parce que c'est important pour une société qui veut se lancer dans le recrutement de personnes en situation de handicap qu'il n'a jamais fait, et il pourra utiliser les conseils de Stéphane sur comment tu arrives à encadrer ces personnes. Donc vraiment, je voulais applaudir ce genre d'entreprise. Merci. Parce qu'elles sont vraiment bénéfiques au territoire.
Des entreprises aussi qui peuvent, dans votre cas, être bien vues par les constructeurs informatiques qui programment l'obsolescence de leur matériel avec des sociétés comme la vôtre qui, derrière, le permet au matériel de continuer à vivre.
On le voit, en fait, au niveau des produits. Vous avez vraiment deux gammes. Vous avez les gammes professionnelles. Qui sont des produits qui sont beaucoup plus chers, c'est vrai, quand les entreprises en font l'acquisition, mais qui sont des produits qui sont faits pour durer, qui sont des produits que l'on peut réparer. Et d'ailleurs, les constructeurs ont obligation de fournir des pièces de rechange pour ces équipements pendant un certain nombre d'années, je crois que c'est 10 ans. Ce qui n'est pas du tout le cas sur les gammes de matériel que vous allez trouver en grande distribution, quelle que soit l'enseigne, avec un prix affiché qui est effectivement plus faible. Pour autant, ce sont des équipements qui ne se réparent pas. Et nous, on ne sait pas reconditionner ces équipements-là. Donc, on a parfois des gens qui viennent à la boutique et qui nous amènent leur ancien ordinateur. Donc, on les remercie. On va essayer de récupérer quelques pièces dessus qui pourront nous servir à dépanner à moindre coût une autre personne qui aura un modèle équivalent et qui aurait ce besoin-là. Pour autant, le reste de l'équipement, non, il va au recyclage et au démantèlement. Donc, juste le petit terme, reconditionnement, c'est remettre en état un ordinateur pour lui donner une deuxième vie en tant que tel. Le recyclage, c'est le démanteler pour retraiter les matières. Donc, on est toujours dans des filières vertueuses, mais ce n'est pas le même objet. C'est différencier le réemploi du recyclage. Voilà.
Oui, Bruno ?
Alors j'en profite parce que pour les entreprises qui nous écoutent, souvent aujourd'hui on se préoccupe de notre bilan carbone. Bon, on l'a vu que c'était important de baisser sa consommation d'énergie parce que l'énergie vaut très cher, mais il y a quand même une volonté de baisser son bilan carbone. On vient de faire une étude au CEA qui est assez extraordinaire en termes de résultats. Et il faut informer les entreprises de ça, et ça joue sur le matériel. C'est qu'on s'est aperçu que nous, le poids carbone du site du CEA Grenoble, c'est 80% le matériel. Et pas ce qu'on croit, le poids de la messagerie, le poids des fichiers sur les serveurs et tout. Non, non, on a des structures de stockage qui permettent d'optimiser. Et nous, c'est 80% du bilan carbone, c'est le matériel. Et donc, l'enjeu de baisser le poids carbone, c'est effectivement de prolonger la durée de vie du matériel. C'est assez exceptionnel. Et puis de réduire forcément le parc à un moment donné, quand les gens ont deux écrans, bon bah on en supprime un pour en laisser plus qu'un, sauf ceux qui en ont vraiment besoin parce qu'ils gèrent des tableaux Excel ou multi-applications. Mais voilà, je voulais passer un message. Et c'est ça l'association, partager les bonnes pratiques. Donc moi, je ne le savais pas avant. Maintenant, je le sais. Aujourd'hui, pour baisser le bilan carbone, vous avez acheté du bon matériel, augmenté sa durée de vie, avoir des contrats de garantie sur 7 ans, au lieu d'avoir des contrats de garantie sur 3 ou 4 ans. Et donc, AFB, lui, fait partie de la chaîne qui permet d'augmenter la durée de vie du matériel. Parce que vous savez, dans le bilan carbone, il y a un scope 1, scope 2, scope 3. Le scope 1, c'est en interne, le scope 2. Mais après, il y a aussi quel est l'impact de ce qui se passe chez les autres qui travaillent pour nous. Et donc, de savoir qu'on va baisser notre bilan carbone quand on va donner notre ordinateur à AFB, puisqu'il va prolonger sa durée de vie.
Et on sait même le calculer très précisément, puisqu'on a des outils qui ont été développés par une entité plus ou moins ONG en Suisse qui s'appelle MyClimate. S'il y a des gens que ça intéresse, je les invite à aller voir le site myclimate.org. Hein, comme c'est des Suisses, ils parlent aussi français, c'est pratique. Et on a réussi à modéliser les économies générées au niveau écologique en donnant une deuxième vie à un équipement, donc en économie de matières premières, en économie d'énergie, de gaz à effet de serre, en économie d'eau. Donc ce sont des éléments que on va retransmettre, on va remonter entre guillemets aux entreprises partenaires qui nous ont confié leurs équipements pour qu'elles puissent intégrer ces résultats dans leur propre bilan carbone.
On change de domaine d'activité avec David Colella, donc agence honnête également, membre de l'AE2I. Alors quelques mots rapidement pour présenter aussi cette entreprise-là, David. Et puis ensuite, on va embrayer quand même sur votre rôle au sein de l'AE2I et puis les actions sur lesquelles vous pouvez être partenaire ou initiateur.
Oui, tout à fait. Merci de nous recevoir. Puis merci à Bruno, notre président, de pouvoir aussi organiser ces événements. Effectivement, Honnête, c'était un grand groupe. Hein, c'est le groupe numéro 1 de la propreté des services associés en France, hein, numéro 1, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est là, nous, forcément, on est un groupe très humain, puisqu'on emploie, on a un terrain d'employabilité énorme, puisqu'on intervient partout. Hein, la propreté, c'est, d'après une récente étude, 94% d'intérêt des personnes qui travaillent dans leur entreprise et qui est la chose la plus importante. À 94% pour le bien-être. Donc voilà, nous on a une action qui forcément donne une image pas très, on va dire, ragoûtante hein, pour ceux qui cherchent du travail. Mais néanmoins, on est une activité, on va dire, essentielle. Hein, et on l'a vu pendant le Covid. On était, nous, toujours à pied d'œuvre hein, pour désinfecter, alors qu'on ne savait pas trop où on allait. Et on ne sait toujours pas trop où on va avec ce virus. En tous les cas, aujourd'hui, nous, ce qui est important, c'est de travailler avec d'autres entreprises. Et notamment au travers de cette association dont je fais partie depuis peu. C'est de pouvoir échanger avec mes collègues et pouvoir surtout voilà oui échanger des bonnes pratiques et puis participer activement. Alors effectivement on travaillait tous dans nos coins, hein, on travaillait avec le Pôle emploi, on travaillait avec différentes entreprises, des associations, mais c'est aussi donner de meilleures idées et puis pouvoir surtout se mettre, comme le disait Bruno tout à l'heure et vous aussi également, c'est se mettre à la page. Aujourd'hui les jeunes ils changent de travail comme ils changent de téléphone portable et nous il faut qu'on arrive à changer aussi nos bonnes pratiques puisqu'on en a de très très bonnes. On le voit avec tous mes collègues là qui viennent de s'exprimer. On a tous de très très bonnes idées chacun dans nos coins et de partager de belles valeurs et puis des actions, hein, puisque on a la chance d'avoir un boss de l'association là qui est très dynamique, qui est très influent et puis surtout qui nous motive et puis ça m'a donné envie. Vous nous posiez la question, ça nous a donné envie de nous organiser autour de lui, parce que on a tous besoin aussi d'un moment donné d'un petit lead. Et puis Honnête fait partie intégrante de cette mission. Sur le bassin de l'emploi de l'Isère, puisqu'on intervient de partout, que ce soit dans les banques, dans les grands clients, les grands employeurs comme Estrée Microelectronics par exemple, au niveau du bassin, le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, là effectivement on a une carte à jouer.
Je vous en prie, Bruno.
Alors ils sont tous modestes autour de la table, mes adhérents, ils sont bien, il faut qu'ils arrêtent de me valoriser, je fais que mon job. Ce que j'aimerais que David nous raconte, parce qu'il apporte des métiers qui ne sont pas comme ceux du CEA, qui ne sont pas ceux d'EDF, et il est quand même sur une partie de métier, donc je ne sais plus comment on appelle, on disait technicienne de surface, on disait agent de propreté, mais ce sont des métiers qui sont pour nous vraiment des métiers difficiles, c'est des personnes qui se lèvent plus tôt que les autres, et si elles n'ont pas de moyens de transport, alors je ne sais pas que tu nous racontes, David, justement cette part-là de métier qui vraiment, tu sauves des vies, quoi, en donnant du boulot à des dames qui ont des enfants, qui ont peu de mouvance, en leur donnant ce travail de nettoyage, avec, je sais aussi qu'ils ont des valeurs, le groupe Honnête, d'autres groupes aussi, mais portent des valeurs par rapport au respect du salarié, malgré sa faible ou forte qualification.
Exactement. Alors, merci Bruno. Oui, le groupe Honnête a 160 ans d'existence. L'histoire a commencé sur les docks de Marseille avec le fondateur qui nettoyait les latrines parce qu'il s'est demandé comment on pouvait aller dans les sanitaires dans ces conditions-là. Et puis, ça a grossi et c'est devenu aujourd'hui une entreprise familiale. Aujourd'hui, donc, ma patronne, c'est Émilie de Lombarès, qui est l'arrière-petite-fille du fondateur. Ce sont des valeurs familiales. Le groupe est détenu à 100% par la famille. Et on a le respect de la personne, c'est qui est important. Bien évidemment, nous, aujourd'hui, en tous les cas, sur Grenoble, quand j'ai été au courant, puisque je connais tous mes agents, on a à peu près 450 salariés, là, sur l'agence, lorsque j'ai appris que j'avais un de mes salariés qui dormait dans sa voiture, qui réalisait que quelques heures de nettoyage par semaine chez nous, ça fait quelque chose, quoi. On se dit, mais mince, c'est pas possible. Donc j'ai tout fait pour vraiment l'embaucher, dans un contrat à durée indéterminée, à temps plein. On a trouvé ce qu'il fallait, on s'est bougé, puisque on a tout ce qu'il faut. On a la possibilité, en réfléchissant un petit peu, à proposer des contrats de ce type-là. Effectivement, j'ai une de mes responsables de secteur qui a organisé des stages avec des primo-arrivants en France, de quelques pays que ce soit, mais l'important c'est que ces personnes ont été accueillies dans des stages, ont pu travailler chez nous, se rendre compte de ce que c'est de se lever à 5h du matin pour pouvoir intervenir chez un client qui est hyper exigeant, ce qui est normal, mais au moins de se lever, de travailler, d'intervenir tous les jours. Puis aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on se pose les bonnes questions, nous on a mis en place des transports en commun personnalisé du groupe Honnête pour pouvoir aller chercher du personnel sur les quatre coins de Grenoble pour pouvoir les emmener à Crolles sur notre chantier ST Microelectronics, puisque autrement ils n'avaient pas de boulot, ils ne venaient pas travailler et puis moi non plus, moi je peux pas trouver de personnel, donc c'est gagnant-gagnant.
C'est là qu'on voit que effectivement quand on parle d'inclusion, tout est lié, inclusion professionnelle et inclusion sociale, ça va souvent de pair. Stéphane.
Non, c'était juste un petit exemple comme ça par rapport à ce que disait Davy et à la difficulté des métiers qu'il représente. Une petite chose, une des complexités que Davy a forcément, c'est de pouvoir fournir du personnel dans des tranches horaires qui sont demandées par les clients, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le matin tôt avant que les collaborateurs n'arrivent et puis Exactement. Le soir une fois qu'ils sont partis. Et nous on a fait un choix différent chez AFB. C'est-à-dire que les collaborateurs qui s'occupent, puisque nous les avons embauchés, qui s'occupent de faire l'entretien chez nous, ils travaillent aux mêmes heures que les autres. Et puis si 10 minutes dans la journée, il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur dans votre bureau, vous n'en mourrez pas. C'est pas grave.
Par contre, ça doit être un peu frustrant pour ceux qui nettoient justement chez vous, s'ils le font au moment où les gens travaillent, ils vont passer la serpillière et deux secondes après,
On se fait engueuler pendant 10 minutes, pendant un quart d'heure, pendant que ça sèche, on ne se lève pas.
Alors, voilà. C'est la pause café à ce moment-là.
Non, mais voilà, c'est une petite chose. On parlait tout à l'heure d'entreprise solidaire de réflexion. On a tous des contraintes par rapport à notre métier, tout ça. Pour autant, parfois, il faudrait juste réfléchir. Combien sont les entreprises qui réfléchissent en se disant « Bah non, le ménage, c'est pas forcément entre 5h et 8h le matin ?»
Alors, je souhaite rebondir, parce que ce qui est intéressant, c'est la diversité des entreprises qui sont là. Et en fait, chaque écosystème d'une entreprise présente des solutions. Donc, dans le cas de AFB, c'est possible, parce que le contexte le permet. Par contre, nous, je sais que dans un laboratoire, si tu fais le ménage pendant que les ingénieurs et techniciens travaillent, ça ne va pas. Donc, il faut les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'une entreprise pourrait se dire « Ah tiens, je vais contacter Stéphane pour lui dire « Est-ce que ton environnement ressemble au mien ?» Et donc, au cas où, il peut le mettre en œuvre et puis sinon, il s'adresse. Je tiens juste à passer un message là à toutes les personnes en recherche d'emploi et qui se posent la question de femmes de ménage, d'hommes de ménage ou techniciens de surface. J'aime bien le mot technicien de surface parce que, bon, nous, on a 250 bâtiments, je gérais le contrat nettoyage. C'est un métier très technique. En fait, on pense que ça peut être simple de faire le nettoyage, mais non, il y a de la manipulation de produits qui peut être dangereux. Donc, ils passent des consignes de sécurité. Enfin, c'est un métier intéressant. Je sais pas comment tu l'appelles, femme de ménage ou technicien de surface.
Exactement.
Mais c'est vraiment valorisant comme métier. C'est pas comme on voyait avant une servante qui fait là, qui passe le balai. Nous, ils sont totalement intégrés depuis un certain temps dans la société. Et donc, il y a une valorisation commune. L'ingénieur, vous savez, nous, on travaille aussi dans les salles blanches. Donc, vous imaginez le côté propreté nécessaire aux travaux sur les microprocesseurs. Mais voilà, chaque métier, on est là pour les valoriser. Et surtout aujourd'hui, on a énormément de métiers en tension sur des métiers techniques, mais style CEP, BAP, Bac Pro. On les recherche. Ça a été dévalorisé pendant des années, mais aujourd'hui, ça vaut de l'or, ces métiers. On en a besoin. On manque cruellement de métiers de cette qualification-là.
Exactement. Surtout que légalement, enfin, on s'est raccroché quand même à ce qui existe. Hein. Aujourd'hui, la formation est obligatoire. Donc, on forme nos agents à la mécanisation, à la manipulation de produits chimiques. Voilà. Enfin, c'est vrai que on est quand même dans un système d'économie. Maintenant, les clients ne vont pas forcément changer leur sol ou refaire tout le carrelage de l'entreprise. Hein. Ben, nous, on va plutôt le redorer. Ça fait partie de notre métier. Et effectivement, comme disait Bruno, je le disais aussi. Moi, très sincèrement, je suis à l'image de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai recommencé ma vie il y a 15 ans. J'étais dans la culture et spectacle, donc rien à voir. J'étais dans un monde doré de théâtreux et de comédiens. Et puis je me suis retrouvé à aller frotter des tuyaux en centrale nucléaire parce que j'avais envie d'apprendre un métier. Je voulais redémarrer ma vie à zéro. Puis aujourd'hui, je suis directeur et je me permets justement de proposer des formations et de pouvoir faire évoluer les gens en interne puisque j'en suis le symbole et c'est possible. Voilà. C'est vrai que c'est un métier qui est mal vu alors que très passionnant et puis qui propose une évolution très rapide.
Alors, je vous remercie tous les deux, hein, Stéphane et David,
merci
pour avoir apporté votre témoignage en tant que membre donc, de l'AE2I. Il nous reste 2 minutes, Bruno, pour faire court.
Alors, 2 minutes pour sauver le monde.
Pour revenir sur les projets à venir, hein, vous vouliez faire passer un message, une annonce sur quelques rendez-vous, ou en tout cas un rendez-vous important prochainement pour l'association.
Il y en a un pour la mise en visibilité, c'est-à-dire, on l'annoncera sur les réseaux sociaux, mais le site qui va être très simple, ça va s'appeler www.ae2i.org. Donc il va ouvrir et il va offrir toute une palette d'informations utiles. On se veut un site utile, un agenda, un glossaire, des événements, des partenaires, de l'emploi, sur tous les sujets dont j'ai évoqué. Donc c'est ça. Après, on a des événements qui vont arriver. Donc là, ça sera dans la page du site et on parlera de ces événements, des forums emploi, des job dating, de la sensibilisation. Mais surtout, je donne rendez-vous à tout le monde. Ça sera au CEA Minatech. Parce que ça demande beaucoup de salles et d'amphithéâtres. Le 29 novembre, ça va s'appeler la journée Inclure la diversité. Ça va aller 2 témoignages de femmes aspirantes pour des métiers genrés pour les jeunes des collégiens, des lycéens le matin. L'après-midi, ça sera des tables rondes, mais en fait des tables de travail sur les sujets qu'on évoque pour faire évoluer la capacité de compréhension, pour faire casser les préjugés. Donc on aura plein d'étapes comme ça. Je parle de celui-là parce qu'on est en train de le monter avec le Dauphiné Libéré, le groupe média, pour parce qu'il faut des financements pour monter un objet comme ça. Je ne demande pas d'argent aux adhérents, juste 100 euros de cotisation. Et puis, on va imaginer... Donc, il y aura tout un tas d'événements tout au long de l'année. Mais surtout, on va imaginer un grand événement national qui va mettre vraiment l'Isère en... Ah oui, aussi, je parle de l'Isère. Donc, on fait des tas d'événements en Nord-Isère, en Sud-Isère, avec tous les EPCI. On ne se limite pas à Grenoble, Alpes, Métropole. Hein. On travaille sur tous nos territoires ruraux, interurbains et urbains. Et donc, je vous annonce le Salon national de la responsabilité sociétale de l'entreprise, un méga truc qu'on va monter tous ensemble et qui va venir faire venir toute la France sur Grenoble pour montrer ce que c'est qu'aujourd'hui, une entreprise... respectueuse, comme vous l'avez dit, hein, responsable
ouais.
Par rapport à son impact environnemental et son impact sociétal. Et puis surtout...
Ça sera vers quelle période, ce grand salon?
On verra.
C'est la période
la plus propice à...
Mais en 2023 ou plutôt 2024?
On a fait des job bridge, des événements de sortie d'alternance au Stade des Alpes. Vous voyez, on fait des choses qui sont à configuration vraiment avec une cible forte. Il faut absolument... Il y a des micros et des événements, des macros. Vous savez, c'est comme quand on travaille sur l'environnement, on peut travailler avec des fresques aujourd'hui. Il y a la fresque du climat, la fresque du numérique. Donc là, on est à 10-15 personnes. Puis des fois, il faut travailler vers 10 000, vers 20 000 pour porter tout ça. Donc voilà, on va travailler. Il y aura toutes les collectivités qui seront là, le rectorat, la préfecture, tout le service public de l'emploi et bien sûr le monde économique qui va montrer qu'on est en capacité sur notre territoire. J'aimerais bien d'ailleurs un train qui aille un peu plus vite entre Lyon et Grenoble pour transporter toute cette foule. Pas en avion surtout, l'avion c'est catastrophique au niveau du bilan carbone. Donc voilà, merci surtout à Radio News qui est toujours à nos côtés. Je me souviens que vous êtes tous les ans au festival des mini-entreprises qui
est un succès
phénoménal et donc vous couvrez l'événement. Donc on est très heureux d'avoir profité de votre mise en visibilité de notre association et surtout... Vous êtes aussi vous-même adhérent de l'association, donc vous portez aussi ces valeurs responsables et durables.
Eh bien, merci à tous d'avoir été avec nous, ceux qui étaient là avant la pause musicale et vous qui êtes restés jusqu'au bout de l'émission. Voilà pour notre sujet sur l'AE2I, l'Association des entreprises inclusives de l'Isère, dont on aura l'occasion de reparler pour annoncer les prochains événements quand ça se rapprochera, évidemment. Et puis sinon, prochainement, donc le site web qui donnera beaucoup plus de visibilité. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle émission de La Voix de l'Emploi sur News FM. Retour de la musique non-stop. Et puis à 16h, c'est le direct de l'après-midi qui reprend avec Sana et son équipe pour le 16-19. Très bonne journée à l'écoute de News FM. Ciao.
C'était La Voix de l'Emploi sur News FM avec le soutien de Grenoble-Alpes-Métropole et du CEGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires.